Okapi. Pascal Masirika. Okapi.
Nouvelle édition de vos nouvelles avec en titre une nouvelle étape dans la demande d'asile formulée par trois Congolais venus témoigner à la haie dans l'affaire Germain Katanga. Ils seront désormais placés sous la responsabilité des autorités néerlandaises. Quelques jours nous séparent de la paye des militaires par voie bancaire. Pour l'instant, l'heure est à l'ouverture des comptes et l'identification des officiers dans un premier temps. Et puis de l'inquiétude en l'air à l'approche du sommet de la francophonie à Kinshasa, des perturbations dans la fourniture du courant électrique s'observent dans la capitale. Les raisons dans ce journal. Bonjour à tous. Les témoins congolais incarcérés à la prison de la Cour pénale internationale depuis le mois de mars de l'année dernière seront désormais placés sous la responsabilité des autorités néerlandaises. Ainsi en a décidé cette semaine un tribunal néerlandais chargé de statuer sur les demandes d'asile déposées par Pierre Mbodina, Floribert Ndjabou et Sharif Mbanda. Ces trois Congolais étaient venus à la haie témoigner dans le procès de Germain Katanga au printemps 2011 et avait ensuite demandé l'asile aux Pays-Bas. De là est la correspondance de Stéphanie Mopa.
Depuis plusieurs mois, les trois Congolais demandaient à être placés sous l'autorité de la justice néerlandaise pour faire valoir leurs droits concernant leur demande d'asile. Appelés à déposer dans le procès de Germain Katanga en 2011, les trois hommes font notamment valoir que suite à leur déposition devant la Cour pénale internationale, leur sécurité ne peut plus être assurée, notamment parce qu'au cours de leur témoignage, ils avaient clairement pointé la responsabilité des autorités de Kinshasa dans les crimes commis à l'est du pays. Dans un premier temps, les autorités néerlandaises avaient estimé que la affaire n'était pas de leur ressort, puisque Pierre Mbodina, Floribert Ndjabou et Sharif Mbanda étaient venus déposer pour la CPI. L'AE affirmait donc que les trois hommes devaient être renvoyés à Kinshasa, mais ce sont les juges néerlandais qui en ont décidé autrement. Pour eux, cette procédure d'asile peut être traitée par la justice néerlandaise. La décision rendue cette semaine est une nouvelle étape, mais les juges doivent encore décider si les trois hommes peuvent ou non obtenir l'asile. Les autorités néerlandaises, comme les responsables de la CPI, craignent aucune réponse positive incite d'autres témoins à demander à leur tour l'asile aux Pays-Bas. À La Haye, Stéphanie Mopa pour Radio Okapi.
Affaire viol sur une mineure. Le député national Adolphe Onusumba Yemba, condamné à 12 mois de prison ferme et au paiement d'une amende de 100 000 francs congolais fiscaux, soit 100 000 dollars américains. Le verdict a été rendu en audience de flagrance hier vendredi à Kinshasa par la Cour suprême de justice. Ce député national a été reconnu coupable de viol. Jeff Ngoy.
Après cinq audiences émaillées de débats houleux et contradictions entre le procureur général de la République, la défense et le conseil de la victime de viol, les juges déclarent établi en droit et en fait l'infraction de viol. De la peine maximale de 20 ans requis par le PGR, Onusumba bénéficie des circonstances atténuantes pour écoper d'une année d'emprisonnement à la satisfaction mitigée du conseil de la victime.
J'ai accueilli avec beaucoup de satisfaction ce verdict parce que l'infraction est établie, mais l'autre volet, c'est ce n'est pas à nous de déterminer la peine. Le ministère public a requis 20 ans, mais la Cour a décidé 12 mois. Donc nous ne sommes pas vraiment satisfaits par rapport à ces volets parce qu'il aurait fallu que cela serve d'exemple aux autres prédateurs.
Pourquoi vous n'avez pas exigé une indemnisation?
Nous allons saisir le tribunal de grande instance pour les dommages et intérêts de l'enfant parce que la fille avait été abusée sexuellement.
Quant au conseil du prévenu, le dé est jeté. Il s'incline.
La Cour a rendu son verdict en toute souveraineté. Nous nous inclinons, voilà.
Vous êtes satisfait?
Ici, il n'est pas question de pardon de la satisfaction ou pas. On respecte le verdict de la Cour.
Arrêté en flagrance par la police dimanche soir dans un hôtel de la place, Adolphe Onusumba perd ainsi son mandat de député national du fait de cette condamnation.
Et puis, les allocations du gouvernement central pour la prise en charge des prisons du Kasaï oriental ne sont pas du tout utilisées à bon escient. Constat de la vice-ministre aux droits humains à l'issue d'une visite éclair jeudi dernier à la prison centrale de Mbujimayi. Elle estime en outre que cette prison centrale ne réunit pas toutes les conditions d'incarcération respectueuses des droits humains. Le reportage de Nick Imputu.
Plus
plus de 670 détenus pour une prison dont la capacité est estimée à 150 détenus, c'est dire que les conditions d'incarcération sont loin d'être respectées. Alors qu'elle visitait personnellement cette prison, la vice-ministre aux droits humains a vu de ses propres yeux les conditions dégradantes de cette maison carcérale. Des dortoirs d'à peine 6 mètres carrés où sont confinés plus de 120 détenus, les installations hygiéniques pas mieux entretenues, dégageant une odeur constante de fosse septique, ajoutée à ces conditions dégradantes, une ration alimentaire insuffisante. La vice-ministre se dit surprise de la précarité de l'alimentation des détenus de Mbujimayi dès lors que le gouvernement central vient régulièrement en appui aux prisons. Maggy Sakina Binti.
Je fais un constat, mais tout à l'heure là, je viens d'instruire pour qu'il me fasse un pain, un petit audit ici, que je sache l'argent que l'État envoie, parce qu'on me dit que ça ne convient pas. On envoie 29 135 dollars par trimestre, mais je vois là-bas, il n'y a pas beaucoup de stocks.
Les instances judiciaires de la province ont également pour mission d'accélérer l'instruction des dossiers afin de décongestionner cette prison. Rappelons que la gestion de la prison centrale de Mbujimayi est collégiale. Sous la coordination du ministre provincial de la Justice, les responsabilités sont partagées entre la direction de la prison et la division provinciale de la justice. Mbujimayi Nikemputu, Radio Okapi.
Je vous propose d'aller maintenant au Kasaï oriental où la paix des militaires par voie bancaire commence avec les officiers dès octobre prochain ici à Kinshasa. Annonce faite hier à Kinshasa par le comité de suivi de cette opération. Selon Jean-Louis Kayembe, sa structure est en train d'ouvrir les comptes de ses officiers dans certaines banques commerciales de la capitale congolaise. Il ajoute que le comité de suivi procède aussi à l'identification des officiers des FARDC. Jean-Louis Kayembe est au micro de Paul Matendo.
Pour éviter de combiner plusieurs opérations à la fois, à savoir l'identification, l'ouverture des comptes et les paiements, cette fois-ci nous sommes pris à temps et nous avons commencé à d'abord pour la catégorie qui est concernée pour la paye du mois d'octobre, pour les officiers en général. Donc nous avons commencé par l'ouverture des comptes et l'identification. La répartition a déjà été faite des effectifs à travers les banques et les banques sont actuellement en train d'ouvrir des comptes.
Est-ce qu'on peut connaître les banques que vous avez déjà identifiées?
Il y a 8 banques qui sont concernées par la paye des officiers de l'armée et de la police.
Nous savons que lors des autres fonctionnaires, vous avez pu identifier des fonctionnaires fictifs. Est-ce que c'est le cas pour les hommes en uniforme?
Nous sommes en train de commencer le processus. On identifie et puis, bon, ceux qui ne vont pas se faire identifier, bon, nous allons comprendre que ce sont des fictifs.
Autre nouvelle, des sérieuses perturbations sont observées depuis plus d'une semaine dans la desserte en électricité ici à Kinshasa. Le directeur de distribution de la SNEL dans cette ville a indiqué que cette situation est justifiée par différents travaux d'entretien qui se déroulent en ce moment au niveau des machines entamées en prévision du 14e sommet de la francophonie. Rombo Fumani n'exclut pas du tout certaines pannes survenues au niveau de la production à Yinga et à Zongo, mais aussi dans la distribution à Kinshasa. Le directeur Rombo Fumani, joint par Michel Kifindangoy.
Nous avons enregistré des pannes de câbles de 30 kV au départ du poste de Liminga vers les sous-stations Sendwe et Limete, qui ont fait que la sous-station Lemba, par exemple, était alimentée à 40% et la sous-station Sendwe à 50%. Et qui dit Lemba veut dire Rigini, Salongo, Matete et bonne partie de Kisenso. Alors, le week-end passé, nous avons procédé aux entretiens du poste de Lingwala qui est situé à Bandal. Et ces postes-là alimentent les sous-stations Kinsuka, Devinière, Gombe, Golf, RTNC, ce qui fait que toutes ces sous-stations n'ont pas été alimentées et par conséquent, il y avait la coupure d'électricité dans cette partie de la ville. Nos équipes sont en train d'intervenir sur la machine numéro 4 de Inga 2. Malheureusement, le travail là fait qu'il faut arrêter aussi la machine voisine. Et aussi, nous nous retrouvons avec la machine de Zongo en entretien. Nous passons de tous ces travaux, vont s'arrêter en milieu de la semaine prochaine.
J'ajoute que la direction de la SNEL Kinshasa annonce par ailleurs que suite aux travaux d'entretien, il y aura coupure d'électricité ce week-end à Makampagne, à Bandalungwa, à Lingwala, mais aussi à la Gombe, dans la partie ouest de la ville, ainsi qu'à l'aéroport d'Njili, Massina, Siforkom, Passa et Mikondo, dans la partie est de la ville. Et pour terminer, sachez que le 12e sommet de la francophonie intervient dans quelques jours ici à Kinshasa et en prélude, plusieurs manifestations manifestations se déroulent déjà. C'est le cas notamment du congrès des médias francophones qui vient de s'achever à Kinshasa hier, à l'hôtel Sultani précisément. Le thème principal était le rôle des médias dans la question de la sécurité, la paix et la réconciliation nationale. On écoute Tidiane Dio, spécialiste de programmes médias de l'Organisation internationale de la francophonie, au micro de Richard Junior Kamunga.
Comme vous le savez, de plus en plus les organisations internationales et les grands décideurs de ce monde sont enfin conscients du fait qu'il n'est pas possible de traiter de la question de la paix et de la sécurité en excluant les médias. Vous êtes vous-même très bien placé pour savoir qu'on ne peut pas sérieusement travailler sur la question de la paix, de la sécurité, de la réconciliation sans que les médias aient un rôle à jouer. Il y a des questions qui traversent la profession depuis la nuit des temps. Un journaliste peut-il, doit-il tout dire, en temps de paix ou en temps de conflit? Un journaliste est-il quelqu'un qui doit faire jouer sa conscience lorsqu'il sait qu'en donnant une information, il peut mettre en péril la cohésion nationale? C'est sur ces questions-là qu'ont été bâtis les débats. Et à partir de ce moment, durant ces 48 heures, il s'est agi de voir dans quelle mesure les médias pouvaient enfin jouer le rôle qui aurait toujours dû être le leur, un rôle de passeur entre d'un côté les décideurs et les États qui entrent en conflit et de l'autre les spécialistes des questions de paix et de sécurité qui mènent le conflit.
C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté. Thérèse Bassoubi reprend l'antenne. Okapi, Okapi, Radio, Okapi.